journée internationale du bénévolat. Hein. Tout à l'heure, on a reçu l'association Les Trois Amis et lequel, j'ai oublié les
on
autres.
On a reçu aussi France Bénévolat.
Tout à fait.
Et on a reçu aussi Cuisine Sans Frontières.
Voilà. Donc là, tout de suite, on part avec Coup de Pouce et Nicodème et plus la Pardap. Donc Coup de Pouce qui est présenté par Agnès. Bonjour.
Bonjour.
Ça va, vous allez bien?
Ça va très bien.
Donc voilà, je vous dis, hein, autour du plateau, on va se tutoyer comme ça. Ça va se passer très très bien, puisque nous aussi, la radio, nous sommes une association, donc on est des amis.
On a l'habitude de tutoyer.
Voilà, on est des amis. Du coup, Coup de Pouce étudiant, je précise en fait. Oui. Donc on a aussi Nicodème, présenté par Agnès également. Bonjour. Et accompagné de Claire. Bonjour, voilà, vous allez bien?
Bonjour.
Bonjour également. Et nous avons Martine de La Pardap. Bonjour, bonjour Martine. Ça va, vous allez bien?
Très bien.
Oui. J'ai posé un problème, qui va répondre quoi? Donc du coup, c'est parti, on va commencer par par La Pardap avec Martine. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît?
Moi,
oui, non, tu te présentes d'abord, ensuite on enchaîne avec l'association. Parce que voilà, moi, j'y tiens quand même nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, comme ça ils peuvent savoir qui est Martine de La Pardap.
Alors moi je suis Martine, je suis retraitée et avant j'étais directrice de bibliothèque.
D'accord, et là tu es dans La Pardap.
La Pardap.
Alors La Pardap, c'est quoi cette association La Pardap?
Alors La Pardap, c'est l'association parrainage républicain des demandeurs d'asile et de protection.
D'accord.
Donc au départ, ça s'est créé autour du parrainage républicain.
Donc vous parrainez des réfugiés, c'est ça des...
Voilà, donc on appelle les gens des accueillis.
Des accueillis, ah ok, parce que...
Parce que migrants, comme le dit...
C'est devenu un peu péjoratif, quoi, c'est ça.
Oui, puis François Héran, qui est professeur au Collège de France, il dit des Français qui vont travailler à l'étranger, c'est aussi des migrants.
Bah,
donc
oui.
Migrants, c'est très très large.
C'est vrai, on retient ça, les accueillis.
Les accueillis.
D'accord, donc du coup... quelles sont les actions que vous faites avec ces accueillis-là?
Alors, comment le parrainage, c'est une cérémonie qui se déroule en mairie. Donc, symboliquement, c'est très fort parce que les élus ont leur écharpe tricolore, puis le lieu déjà. Mmh. Et les parrains, marraines et les filleuls s'engagent solennellement à respecter les valeurs de la République française.
D'accord.
Entre autres, la laïcité, égalité, fraternité, liberté. Et laïcité.
Je suis d'accord avec vous. Donc tout à l'heure, dans la petite réunion, là, tout à l'heure, je vous ai entendu parler. Vous parlez des changements qui sont mis en place par la préfecture concernant, je sais pas, des emplois, les gens qui travaillent dans des manutentions. J'ai oublié que j'ai griffonné quelques mots là-dessus. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ça?
Oui. Alors, on sait que notre gouvernement aime bien faire des nouvelles lois. Donc, et on peut le dire,
c'est tous les jours, quoi, c'est ça.
Dans le sens des restrictions des droits aux accueillis.
D'accord.
Mais on sait qu'en France aussi, il n'y a pas énormément de chômage actuellement, je crois que c'est 8%, mais il y a ce qu'on appelle les métiers en tension.
D'accord.
C'est-à-dire que, par exemple, quand on a contacté les métiers du bâtiment en Isère, tout de suite, ils nous ont dit on a 3000 postes disponibles.
Wow.
Donc l'idée, c'est de rassembler en même temps les associations qui accompagnent les accueillis, des patrons et l'État, c'est-à-dire en Isère, c'est le préfet, puisque le préfet a un grand pouvoir décisionnaire en fait. Il y a les lois, mais le préfet a un pouvoir décisionnaire. Donc cette opération s'appelle En Acte, elle est pilotée par la Fédération d'entraide protestante et donc... Il y a d'un côté un patron qui dit « Oui, ok, moi j'ai besoin d'un plombier qui sait faire telle chose, telle chose, telle chose. » Les associations disent « Ah ben oui, nous on connaît un tel ou un tel qui a déjà cette compétence et qui est prêt à développer ses compétences et sa formation. » Et il y a déjà eu une vingtaine de personnes à qui le préfet a donné un titre de séjour uniquement sur le travail parce qu'il y avait un patron d'un côté et un accueilli de l'autre mm-hmm. qui avait la compétence.
Donc un patron d'un côté, c'est intéressant ça. Un patron d'un côté, le patron, il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ?
Il s'engage à employer cette personne.
Donc si je comprends bien, c'est qu'il veut dire aujourd'hui, si on est accueilli dans la part d'app et qu'on fait du travail haute tension, c'est ça ?
Les métiers en tension.
Les métiers en tension, ok. Je vais retenir là.
Métier en tension,
j'allais revenir sur ça en fait. Métier en tension, c'est qui veut dire tout celui qui travaille dans les métiers en tension, ils peuvent obtenir statut, c'est ça?
Les métiers en tension, c'est les métiers où on manque de personnel. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire des travaux dans le bâtiment.
Non, moi je pensais métier en tension, c'était des métiers difficiles. tu vois. Ok, d'accord.
Dans le bâtiment, actuellement, tous les artisans, ils ont un an, voire un an et demi de commandes devant eux, parce qu'il y a eu les confinements, tous les épisodes. Mmh. Et puis surtout, il manque de personnel.
La restauration aussi.
La restauration, les personnes âgées.
D'accord.
Le soin aux personnes âgées, l'accompagnement des personnes âgées. Mmh. C'est des métiers en tension parce qu'on manque de personnel. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens au chômage. Il y a plein de postes disponibles.
Et du coup, comment ça se passe le suivi? Parce que vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a des, justement les patrons. Comment ça se passe avec les jeunes, le suivi?
Une fois que le patron et le candidat se rencontrent, c'est pas simplement... Donc, le patron dit... Moi, ça fait 6 mois que ce poste est ouvert. Je n'ai pas de candidat venant par Pôle emploi ou par les canaux habituels. Donc voilà, j'ai besoin de quelqu'un. Les associations présentent quelqu'un qui a cette compétence. Donc la rencontre se fait. Mm-hmm. Et puis après, il y a le dossier. Quand le dossier arrive devant le préfet, il y a déjà le patron qui dit « Moi, je m'engage à employer cette personne ».
D'accord. Donc, du coup, la PARDAP a réussi à légaliser.
Avec d'autres associations. Hein.
Avec d'autres.
La Fédération d'entraide protestante, la CIMAD,
d'accord.
Trois Amis, la PARDAP. Donc, toutes ces associations travaillent ensemble.
Travaillent ensemble.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut dire. L'interassociatif est vraiment extrêmement important.
Oui, c'est important aussi. C'est quand on est ensemble qu'on a plus de force. Je pense aussi, il y a pas mal de choses qui se passent quand même dans la région grenobloise au niveau des associations. Hein. En plus, je l'ai rappelé tout à l'heure, hein, on est dans la journée internationale du bénévolat. Donc, je ne sais pas, quel rapport faites-vous du bénévolat et la PARDAP? Est-ce que vous êtes bénévole?
Alors, moi, je suis bénévole. À la PARDAP, il y a à peu près 100 de bénévoles. Il y en a qui passent pratiquement tout leur temps. Il y en a d'autres qui viennent pour donner des cours pendant 2 heures par semaine, par exemple, des cours de français. Des choses. Le principe du bénévolat, hein, c'est... quelqu'un qui veut bien, l'étymologie du mot. Donc c'est quelqu'un qui a de la disponibilité et qui dit, moi je veux... Il y a beaucoup de gens qui disent, ça donne du sens à ma vie. Mm-hmm. Et puis ça donne une occupation. On rencontre d'autres gens. Et la richesse, c'est de rencontrer justement des gens d'autres cultures. On a beaucoup parlé de nourriture dans le tour de table tout à l'heure. Et puis dans les gens qui ont été reçus précédemment. C'est une façon de se rencontrer et de partager. Mm-hmm. Et aussi, moi j'ajoute, entre bénévoles, moi j'ai rencontré d'autres bénévoles de la PARDAP qui sont devenus mes amis, des gens
ça
qui
crée
viennent
du lien, quoi.
De milieux différents. Lien. Donc du coup, ça crée du lien, oui, dans tous les sens. Mmh, ça crée du lien, ça crée de la rencontre, ça crée de l'ouverture. Et je crois que les valeurs principales, c'est ça.
C'est du bénévolat, c'est ça. Oui. D'accord, merci Martine. Peut-être on revient sur toi dans un instant. On va passer au coup de pouce étudiant. Hein, parce que moi, les étudiants, c'est mes amis. Je les vois galérer tellement que... Donc, Agnès, hein,
Agnès,
c'est bien ça, Agnès. Est-ce que aussi tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît?
Donc, écoute, je m'appelle Agnès. Moi aussi, je suis à la retraite depuis déjà quelques années. Et donc, dès que j'ai pris ma retraite, j'ai cherché à m'impliquer dans des associations. Et je connaissais déjà Coup de pouce étudiant, j'en avais entendu parler. Je trouvais super ce que faisait cette association. Donc,
d'accord.
Je suis tout de suite rentrée dedans.
Mais coup de pouce étudiant, vous faites quoi? Vous voulez donner des coups de pouce?
Parce que nous, coup de pouce, on entend souvent parler. Ça,
oui, je crois qu'il y a beaucoup de... Toutes les associations donnent des coups de pouce.
Ouais, hein. Tout à fait.
Donc la spécificité de coup de pouce étudiant, donc, ou qu'on appelle CPEG, hein, mm-hmm. coup de pouce étudiant Grenoble, c'est à la base d'apporter un soutien à des étudiants, donc inscrits à l'université, de la première année au doctorat, mm-hmm. qui à un moment sont en difficulté. Alors il y avait des professeurs professeur d'université qui avait remarqué qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui abandonnaient parce qu'ils avaient des problèmes, ils étaient en difficulté. Mm-hmm. Donc, ce coup de pouce, il peut être dans différentes matières. C'est un coup de pouce, je dirais, vraiment scolaire,
assez large. Okay. D'accord.
Donc, certains étudiants, à un moment, ils ont besoin d'un soutien en maths ou en économie ou en informatique ou en anglais. Mm-hmm. Mais très vite, l'association s'est, orientée, ça a été la demande, mm-hmm. Vers des étudiants étrangers qui sont venus faire des études en France parce que à l'université, et notamment à partir du master, beaucoup de cours sont en anglais. Mm-hmm. Donc, ça attire les étudiants qui maîtrisent l'anglais.
Tout à fait, ouais.
Mais ils ne maîtrisent pas pour autant le français. Alors, ils sont à la fac. Déjà, il peut leur manquer des soutiens dans quelques matières parce mm-hmm. qu'ils n'ont pas forcément fait exactement le même programme dans leur pays. Mm-hmm. Mais surtout, entre les cours en anglais, les autres étudiants étrangers qu'ils rencontrent, qui parlent anglais, ou leurs compatriotes avec lesquels ils se retrouvent, ils ne parlent jamais français, ils n'ont mmh. pas de contact avec des Français.
Mmh, tout à fait.
Et certains aussi souffrent beaucoup d'isolement, parce que tous n'ont pas un réseau, un noyau d'amis, ils n'ont pas de famille forcément sur place. Et donc, à l'heure actuelle, c'est 80% des cours qui sont donnés, c'est des cours de soutien en français.
Et ces cours sont... Pardon, Alan.
Oui, non, je voulais juste peut-être préciser quelque chose, peut-être au niveau des personnes qui sont autour de ces jeunes-là. Ce sont des profs, ce sont des professeurs.
Alors, ce sont tous des bénévoles, beaucoup de retraités. Mm-hmm. Et alors, je dirais, je reviens sur ce que disait tout à l'heure, Martine, ce qui est très chouette, du coup, dans cette association, c'est qu'il y a un mélange de générations, parce que les étudiants, forcément, sont jeunes, la plupart, ils ont moins de 30 ans, quand même, et beaucoup de retraités, mais aussi d'autres personnes qui sont venues, d'ailleurs, par France Bénévolat, certaines, des jeunes actifs ou des gens au chômage qui, à un moment, veulent donner de leur temps, soutenir des étudiants. On a aussi d'anciens étudiants de coup de pouce mmh. qui reviennent pour aider les autres en tant que bénévoles. Et la particularité là, du soutien, c'est toujours sous forme de binôme.
D'accord.
Un bénévole, un étudiant.
D'accord.
Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Mmh. Alors, beaucoup, effectivement, il y a beaucoup d'anciens profs, mais pas que, parce qu'il ne s'agit pas d'apporter des cours de façon très structurée, très universitaire. Un étudiant a besoin de parler français, a besoin de rencontrer les Français. Moi, j'ai eu l'année dernière une étudiante qui parlait très bien le français. Elle préparait un master pour enseigner le français en langue étrangère. Elle était thaïlandaise. Pour être prof de français en Thaïlande. Mais par contre, elle ne connaissait pas de français, elle connaissait mal la société, et on avait beaucoup plus des conversations pour qu'elle développe le français à l'oral. À l'écrit, elle était top, hein. Elle n'avait pas besoin de moi à l'écrit, mais pour parler, et puis apprendre des choses sur la société française. Voilà, la galette des rois.
Oui, des choses qui paraissent un peu banales pour nous.
La fête des mères, on fête la chandeleur. La chandeleur, d'accord. C'est quoi ça, d'où ça vient, etc. Puis des coutumes françaises.
Ça aide à l'intégration, hein, carrément, quoi.
Voilà.
À connaître les coutumes du pays d'accueil.
C'est
important.
Et puis, alors je dirais au-delà, à coup de pouce, en moyenne, il y a 40 nationalités, des étudiants de 40 nationalités différentes. Donc c'est aussi un très très beau mélange, et je crois que c'est aussi une petite étape
c'est plus
vers
que la coupe
l'amitié.
Du monde.
Enfin, la connaissance, ça favorise l'amitié, ça favorise la paix, je pense, à long terme.
Tout à fait.
Parce que quand on se retrouve à boire le thé, on a une étape un peu goûtée, petite temps d'échange entre les cours, avec des étudiants de pays qui peuvent être éventuellement en guerre. Ou en tout cas, pas avoir des relations excellentes, on va dire. Mmh. Et qu'on se retrouve à discuter, à échanger, ça se passe bien. Et tout le monde apprend des autres aussi. Donc,
d'accord. Et ce coup de pouce, c'est destiné seulement à des étudiants étrangers et étrangers?
Alors, il y a des étudiants français qui viennent, mais de fait, qui ont besoin, alors vraiment, eux, d'un soutien dans une matière.
Ok,
souvent, bien précise.
Précise, voilà. Mais ce n'est pas la majorité. Mais c'est ouvert à tout le monde.
C'est ouvert à tout le monde. Donc, ce qui veut dire là, les étudiants qui sont en train de nous écouter et qui ont besoin de coups de pouce, ils peuvent venir vous voir. Et si
après,
on veut vous voir, on fait comment
il faut venir à l'association à coups de pouce, donc qui est Place Saint-Bruno.
D'accord.
On a une salariée à temps partiel, Anne, qui, parce que là, c'est, ça serait trop difficile pour juste des bénévoles, qui fait. Reçoit tous les étudiants, mm-hmm. qui analyse bien leurs besoins, leurs demandes, mm-hmm. et on, qui reçoit aussi les bénévoles pour voir dans quel domaine ils peuvent intervenir, dans quel domaine ils se sentent le plus à l'aise. Et ensuite, elle fait les pairs.
D'accord.
Sachant que certains bénévoles peuvent prendre 2-3 étudiants à un moment, qui ont
oui,
à peu
c'est
près
flexible,
le même niveau,
y a pas
voilà,
de...
la même demande.
Mais Agnès, donc, voilà, en tant qu'accompagnatrice, qu'est-ce qui vous a animé à faire ça en fait?
Eh bien, je crois que c'était de rester en contact avec des jeunes.
D'accord.
Parce que le risque finalement, quand on bascule, quand on est dans la retraite, quand on travaille, on est. Enfin, moi, j'ai un travail avec beaucoup de contacts avec beaucoup de gens. Quand on travaille, on est en contact avec tous les âges, tout le monde.
Tout à fait.
Et je trouvais à la fois important de pouvoir donner du temps, passer du temps avec des gens. Moi, j'ai toujours bien aimé. À la base, j'ai une licence de français. J'ai travaillé un temps dans un centre de formation pour adultes. Donc, j'aimais bien l'enseignement, même si j'en ai fait très peu. Mmh. Et puis, d'être avec des jeunes et rencontrer des gens de diverses nationalités, je trouve ça très...
Très enrichissant.
Ça nous permet de voyager un petit peu en voilà. étant chez soi. Quoi.
Exactement.
Ben, voilà. En tout cas, merci Agnès. Hein. En parlant de ces étudiants, on va venir tout de suite sur Nicodème. Hein. Je pense que ces étudiants qui viennent vous voir coup de pouce, c'est les mêmes qui vont aller chercher à manger des fois aussi à Nicodème. Donc voilà, Nicodème aussi qui est présenté par Agnès. Attends, je suis perdu, Claire. Voilà. J'ai trouvé. Donc voilà. Agnès et Claire, bah, Agnès d'abord, je te laisse te présenter un petit peu. Voilà. Voilà, voilà, il n'y a pas de souci.
Nicodème, moi je suis Agnès Verdillon et j'ai découvert Nicodème à la retraite. Mm-hmm. Je connaissais l'existence de ce café associatif et ce que j'en connaissais me plaisait beaucoup. Donc la semaine qui a suivi ma retraite, mm-hmm. je suis allée déjeuner un jour à Nicodème. Mm-hmm. Et puis je suis revenue une autre fois, un mercredi encore, déjeuner. Et après ce deuxième repas à Nicodème, je me suis installée à table avec tout le monde. Je suis allée voir les bénévoles en disant que le projet qu'ils avaient était très chouette, me plaisait beaucoup et que j'étais prête à être bénévole. Voilà, c'est comme ça que
c'est comme ça que c'est parti.
L'histoire s'écrit comme ça.
Comment ?
J'ai dit l'histoire s'écrit comme ça. Voilà. Un matin, on a envie
de... Donc ça s'est passé comme ça.
D'accord.
Parce que Nicodème, c'est une... C'est un peu une institution, ce Grenoble, mm-hmm. qui existe depuis 36 ans, toujours dans les mêmes locaux, 4 places Clavaison à
Tout
Grenoble.
Tout à fait, moi je passe devant.
Qui a été créé au début par deux mères de famille, mm-hmm. qui avaient une cinquantaine d'années, et qui voulaient animer un lieu d'accueil et d'échange pour les étudiants du centre-ville. Donc au départ, ça démarrait comme ça.
D'accord.
Puis petit à petit, on va dire que la population les accueillit, parce que nous aussi, on parle d'accueil. Ont évolué. Mmh. Il y a eu des périodes avec énormément de SDF, il y a eu de moins d'étudiants. Mmh. Et maintenant, on peut dire que la population qui fréquente Nicodème, les gens qui passent la porte, qui viennent s'installer à table avec d'autres, c'est des gens qui sont dans une situation de précarité, plutôt, soit financière, des fragilités psychologiques et psychiques importantes, des gens qui sont très isolés, qui pour différentes raisons ont perdu des liens sociaux et ont besoin de retrouver des liens avec d'autres. Mmh. On a des gens qui sont en incapacité de travail pour X raisons, qu'on ne connaît pas forcément. Mmh. Mais on va dire que c'est là une grande partie
mais
de
vous les accueillez quand même.
À Nicodème qui sont accueillis.
D'accord.
Voilà. Et voilà. Et on a aussi des gens qui sont encore en activité professionnelle. Mmh. On a peut-être un peu plus d'hommes que de femmes. Mmh. Le mercredi, on a de temps en temps des familles avec des enfants. Voilà.
D'accord.
Et ce que cherchent les gens, c'est la chaleur de la soupe, oui, mais la chaleur humaine.
Oui, c'est d'abord. Important ça. Il n'y a rien qui peut remplacer ça, en fait, la chaleur humaine.
Et donc, cette association compte à peu près 70 à 75 bénévoles. Il n'y a pas du tout de salariés. Et nous fonctionnons en équipe. Mm-hmm. Une équipe le lundi, une le mardi, une le mercredi, une le jeudi, une le vendredi. On va dire qu'on partage tous le même cadre de référence,
d'accord.
mais chaque équipe s'enrichit des compétences et des qualités de chaque membre de l'équipe.
D'accord.
Et ce qu'on assure, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a 3 temps forts, mm-hmm. donc je laisserai Claire parler la soupe.
Yes.
Il y a 3 temps forts, le temps de la pause de midi, mm-hmm. mmh. qu'on appelle aussi la pause méridienne, où les gens peuvent venir s'installer pour prendre une entrée, un plat, un dessert, ou juste une entrée et un dessert, comme ils veulent, puisque chaque jour, on prépare entrée, plat du jour et dessert. Préparé par une équipe de
complet,
bénévoles.
Complet, quoi. C'est un repas complet, voilà, en fait.
Par des bénévoles qui ne sont pas forcément cuisiniers de métier. Il se trouve que dans les équipes, on a deux personnes qui ont été cuisiniers dans leur vie professionnelle, mais c'est un concours de circonstances.
Oui, tout à fait.
Ce qu'on dit, c'est qu'on fait la cuisine comme à la maison.
Mmh. Claire, alors, avant de parler de cette bonne soupe-là, est-ce que toi aussi, quel est ton rôle? Je sais que tu es bénévole, hein, mais comment, en fait?
Eh bien, en fait, je ne savais pas. Je ne sais pas si un jour j'aurai une retraite. Du coup, je décide de prendre du temps maintenant.
Je vais faire comme toi.
Ça commence par travailler moins.
Tout à fait.
Et en travaillant moins, j'ai rencontré Nicodème parce que j'avais du temps et j'avais envie de faire autre chose de mes journées que de travailler. Et du coup, je travaille à Nicodème bénévolement depuis 4 ans.
Ah ouais.
Plus de 4 ans, 5 ans.
Et on est dans la même équipe. Voilà, c'est pour ça qu'on se connaît.
D'accord.
Et moi, ce qui m'a plu à Nicodème, c'est... C'est ouvert à tout le monde, on ne demande rien aux gens. La rencontre, elle se fait à plein de niveaux. La rencontre, elle se fait entre les bénévoles. Mmh. Elle se fait entre les bénévoles et les personnes qui viennent manger. Mmh. Elle se fait aussi entre les personnes, entre elles, qui viennent manger. Donc elle est vraiment multiple. Et ça, autour d'un repas simple et bon et chaleureux.
Oui, yes. Ça me fait penser, tu sais, Sana, on les reçoit souvent, Mosaïque Café.
Ouais.
Ça me fait penser aussi à, bah, finalement, que le café, le petit lieu comme ça où on vient juste boire un coup ou manger, c'est là où ça rassemble, où ça fédère et ça crée du lien. Quoi.
Tout à fait. Parce que nous, on dit, peut-être, on dit, voilà, c'est juste pour venir manger et boire un coup, hein, mais les gens qui viennent là-bas, c'est pour eux, il y en a, c'est pas juste, quoi, c'est la famille, quoi, tu vois. C'est le seul endroit, je pense que, voilà, ils peuvent rencontrer des gens, hein, parler avec eux, hein, comme Agnès de Coup de Pouce. Hein, t'as
oui,
dit, il y a certains étudiants qui sont.
Goûté, c'est pareil, je crois que c'est toujours autour d'un verre ou d'une assiette que les liens se tissent.
J'ajouterais que la seule chose qu'on demande aux personnes qui passent la porte et qui viennent s'installer à une table, c'est leur prénom.
D'accord, c'est tout.
Et nous, on donne notre prénom. C'est extrêmement important pour une personne qui est seule, qui a du mal dans les relations avec les autres et qui est dans une dégringolade dans sa vie, qui ne sait plus très bien où elle est, de s'entendre appeler par son prénom.
Oui, ça fait du bien, c'est des choses
peut-être
banales, mais qui sont très...
C'est une reconnaissance, ça fait beaucoup
très...
de bien, ça. Et effectivement, c'est la seule chose qu'on connaît des personnes quand elles arrivent. Tous les bénévoles savent que quand on se présente et qu'on va faire le petit ticket du repas pour quelqu'un, c'est une personne qu'on ne connaît pas, on lui dit bonjour... On donne son prénom et on lui demande son prénom. Et moi, ça m'avait beaucoup plu, ça.
Ça brise déjà la glace. Donc, j'espère que c'est la meilleure façon de démarrer quand même une amitié ou une discussion, quoi, entre deux personnes. Oui, alors, Claire, moi, j'ai hâte de revenir à cette soupe-là. Alors, cette soupe, c'est quoi? C'est quoi? Paraît-il, c'est un gros succès là-bas à Nicodème.
En fait, tout l'hiver, du 1er novembre jusqu'au 31 mars, dans Grenoble, il y a possibilité dans plusieurs endroits de Grenoble de trouver une soupe chaude et un sandwich. Et
gratuitement.
Gratuitement. C'est servi le soir à différents endroits. Et donc nous, à Nicodème, on fait ça le dimanche soir et le lundi soir. Où, donc le principe, c'est on vient, on cuisine la soupe, on prépare des sandwichs et on sert cette soupe à partir de 18h.
D'accord.
Le dimanche et le lundi.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de participants et des participantes, bien sûr, des personnes,
la
soupe, quoi.
Il y a cette année beaucoup de personnes, jusqu'à 70 personnes récemment. Donc
c'est beaucoup quand même,
beaucoup.
Bah oui.
C'est un public qui est plutôt différent des personnes qui viennent. En semaine, le midi. En fait, c'est un public beaucoup plus précaire financièrement.
D'accord.
Et très isolé aussi. Et on le voit, là, hier soir, c'était un soir de pluie et les personnes sortent pas de l'abri où ils sont pour prendre une soupe. Et donc, il y a des soirs, c'est beaucoup moins de personnes, mais souvent dû
du temps
à la météo.
Ouais. Justement, quel constat vous faites par rapport, parce que vous accueillez aussi des sans-abri finalement, quel constat vous faites par rapport à ça?
Je ne suis pas sûre que ça augmente. Je pense c'est juste que je suis pas sûre que le nombre de personnes sans-abri augmente. Je pense que ce qui a augmenté, c'est les réseaux d'information. Mm-hmm. Et mm-hmm. les gens ont maintenant plus l'information mm-hmm. d'aller venir chercher un repas.
Et ça,
l'information circule dans les foyers aussi.
Dans les foyers, bouche à oreille, sur les réseaux.
Qui n'ont pas la possibilité de cuisiner mm-hmm. où ils sont hébergés et qui peuvent venir nous chercher une soupe en tout cas, cuisiner maison.
Je pense aussi qu'il n'y a pas uniquement... Au départ, ce projet qui a été initié, le Fournil y participait... Et donc, nous, on a proposé d'y participer. Au départ, l'idée, c'était que ça devait être surtout destiné aux personnes qui étaient dans la rue.
D'accord.
En réalité, c'est pas du tout actuellement la majorité des personnes qui viennent. Mm-hmm. Pas du tout. Mais les gens qui viennent sont certainement des gens qui ont un logement précaire, certainement pas de chauffage. Et finalement, les gens viennent aussi, là aussi, pour la chaleur humaine des retrouvailles. Mmh. C'est un rendez-vous le soir. Et pendant le Covid, la seule activité qu'on a pu maintenir en étant dans les règles, mmh. c'était la soupe chaude, puisqu'elle est distribuée sur la place. Tout le monde arrivait avec un masque, on était à l'extérieur. On a eu beaucoup de monde aussi. On a même des étudiants qui sont proposés pour venir nous aider à ce moment-là. Mmh. Voilà. Mmh. Mais c'est vraiment un rendez-vous, le rendez-vous de la soupe du soir l'hiver. Les soirées sont longues quand on est tout seul.
Tout à fait.
Même si on a un logement, quand on n'a pas de quoi se faire manger, chauffer quelque chose.
Parce à que manger surtout.
C'est le cas pour beaucoup de gens, je pense. Et bien là, on a une soupe chaude.
À manger surtout. C'est important de mettre ça quand même en avant. Quoi. Moi, je suis un petit peu passé par tout ce que vous racontez un petit peu. Quoi. Quelques ouais. passages quand même. Quoi. Moi aussi, j'allais dans les assos, je mangeais, j'étais bénévole aussi. Et je sais que, sincèrement, en tout cas, moi, de ma part, je dis toujours heureusement qu'il y avait ces associations, quoi. Sinon, bah, je pouvais mourir de faim, quoi. Je te jure, c'est... Merci pour tout ce que vous faites. Agnès Coulpousse étudiante, tu voulais ajouter quelque chose, c'est ça?
Non, en fait, j'avais une... Non, je voulais juste dire déjà qu'on a de la chance à Grenoble quand même d'avoir un tissu associatif très dense, très fort. Et ce qui fait qu'effectivement, les gens en difficulté, ils sont... À un moment, s'ils entrent en contact avec une personne, association, elle peut les renvoyer sur d'autres. Et je voulais savoir, du coup, les repas, comment vous aviez les ingrédients, les denrées pour faire les repas? C'est
alors,
la banque alimentaire.
On achète une grande partie de la nourriture, des denrées, mais on est aussi partenaire de la banque alimentaire.
D'accord.
Et on essaye d'acheter... par exemple, on travaille avec les boulangeries du quartier. On va aussi au marché sur le quartier. On travaille avec un producteur de la vallée de la Bièvre. C'est des bénévoles qui nous apportent les légumes qu'on achète chez un producteur. Voilà, on essaye d'être le plus local possible. C'est vrai qu'on n'est pas gratuit, je tiens à le dire, parce que ça n'a jamais été... Le principe à Nicodème, c'est que...
Il y a une participation.
Qui est demandée aux personnes. Donc actuellement, l'entrée, et la plupart du temps en hiver, c'est un grand bol de soupe qui a été préparé le matin avec des légumes, des légumineuses, etc. Quelque chose de nourrissant. Mm-hmm. C'est 1 euro. Le plat, c'est 1,20 euro. Et le dessert, 80 centimes.
Mais c'est vrai, c'est symbolique, quoi.
Il est bien évident qu'avec la situation et la précarité qui n'a pas diminué, bien au contraire, les gens qui arrivent et qui ne peuvent pas ou qui ont quelques pièces avec eux, bien sûr qu'ils sont nourris et ils contribuent à leur façon. Et nous, on a ouvert ce qu'on appelle un fonds de solidarité dans notre budget qui nous permet aussi d'accueillir des personnes. Par exemple, la semaine dernière, on a accueilli une famille de 5, des parents avec 3 enfants qui étaient là depuis un mois, qui arrivaient d'Angola.
Voilà. D'accord. Moi, là, je suis en train de penser pendant les confinements et tout, comment ça s'est passé pour ces personnes-là, puisqu'ils ne pouvaient pas se rendre là-bas, venir à Nicodème. Mais je ne sais pas, comment ça s'est passé, en fait, pendant les confinements?
Ben, les gens ont... Je pense que le
Nicodème aussi était fermé ou...
Comment?
Nicodème était fermé aussi pendant les confinements, c'est ça?
Il a été fermé au début, tout simplement, parce que la plupart, si on avait laissé ouvert, il n'y avait plus que 5 bénévoles qui avaient moins de 65 ans.
Ouais. Oui. Alors, non, il y avait un risque quand même, de toute façon.
On n'est pas resté les bras croisés. On s'est dit très vite qu'il fallait quand même qu'on apporte notre pierre à contribution. Et du coup, on s'est rapproché d'une autre association, l'Accueil SDF, qui se trouve rue du Vieux-Temple, qui est une association qui a plus de 50 ans d'existence à Grenoble. Et on s'est dit, on va essayer de participer nous aussi. Donc on s'est lancé dans une organisation de distribution de sacs alimentaires.
D'accord.
Du coup, on a mutualisé les moyens humains, les bénévoles. On a mutualisé les moyens financiers pour pouvoir acheter et proposer des sacs alimentaires.
D'accord.
Donc Nicodème, en tant que lieu d'accueil assis à table, était fermé. Mais...
Vous participez quand même.
On a cette possibilité-là et on a maintenu les soupes du soir puisque les soupes du soir sont servies dehors.
Bah oui, c'est sacré quand même.
Voilà.
Donc voilà, la part d'app, j'allais revenir sur vous et également. Un peu, je pense pendant le confinement, vous, ça ne vous a pas trop impacté au niveau des parrainages, petit peu ou...
Bah si, parce que les mairies étaient fermées. Donc du coup, l'an dernier, la cérémonie de parrainage qui a eu lieu en décembre 2021,
n'a pas eu lieu.
Si, elle a eu lieu, mais il y a eu beaucoup de parrainages, puisqu'il n'y en avait pas eu pendant un an et demi. Il y a eu 50 parrainages, cette année, il y en aura un petit peu moins.
D'accord.
Mais pendant le confinement, nous, il y a aussi un repas qu'on fait deux fois par mois, le soir. Donc ici, nous, on a notre lieu aussi dans Babel-Saint-Bruno, donc avec des denrées que donne la Banque alimentaire, puis on complète un petit peu par des choses plus fraîches. Donc pendant le confinement, nous, on a fait plusieurs actions. On a donné des sacs alimentaires aussi. Et puis, il y a eu, les bénévoles se sont répartis les numéros de téléphone des accueillis. Et on les a appelés pour maintenir le contact. Et puis, on a aussi mis du crédit sur leur téléphone.
D'accord.
Pour ceux qui voulaient donner des nouvelles... au pays ou avoir des nouvelles du pays.
Donc
voilà, il y a eu
sympa.
Cette action particulière où, comme toutes les associations qui sont là, on s'est cotisé ou directement ou par l'association, on a mis du crédit sur les... Et je voulais rajouter par rapport, tout à l'heure on disait que le bouche-à-oreille fonctionne bien, mais c'est vrai qu'à Grenoble, on a beaucoup d'associations. Moi je parle avec des gens qui sont dans d'autres villes, il n'y a pas autant d'actions. Et il y a Grenoble Solidarité, qui est le CCAS, qui fait un site qui est mis à jour très régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aux gens. Grenoble Solidarité, vous avez toutes les informations sur où manger, où prendre une douche, où se renseigner pour les femmes, le local des femmes. Il y a vraiment... Donc il y a une source d'information qui rassemble toutes les informations.
D'accord.
Le CCAS fait des tableaux qui sont extrêmement bien faits.
Oui, c'est ça, c'est Grenoble Solidarité.
Voilà, en tout cas, l'information est donnée, est passée. Hein. Mais là, bon, on est là cette journée, c'est la journée internationale du bénévolat. Hein. C'est vous qu'on met à l'honneur aujourd'hui, hein, les assos, tout ce que vous faites. Donc, quelle place, en fait, ça vous fait quoi cette journée aujourd'hui? On commence par toi, Martine, de la part d'App.
J'avais pas tilté qu'il y avait cette journée. Je sais que France Bénévolat avait déjà fait ça l'an dernier et j'étais venue parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant, effectivement, d'entendre parler d'autres associations. Il y en a qu'on connaît. Mais du coup, je sais qu'il y a une ou deux personnes à qui je vais demander est-ce que vous accueilleriez des bénévoles, des accueillis bénévoles, parce que nous, on essaye de leur proposer du bénévolat aussi. Hein, parce qu'on sait que, bon, on a, à la PARDAP, on accueille beaucoup d'Africains.
Oui. Hein.
Moi, j'ai vécu un petit peu en Afrique il y a très, très, très longtemps. On sait qu'en Afrique, on vit rarement seul.
Bah oui, oui, oui. Ça n'est, hein? J'ai jamais vu de ma vie, en tout cas.
Voilà.
Même si on a 80, 101 ans, on est dans la famille, quoi.
Voilà. ou même dans la concession. Dans,
oui, oui, c'est ça la concession quand on dit la famille.
Donc, moi, je me dis, les gens qui sont en attente d'une réponse, déjà, c'est angoissant. Ils sont souvent tout seuls dans une chambre, dans un CADA ou dans un truc comme ça. Ils ont besoin de rencontrer des gens et ils ont besoin de se sentir utiles. Et j'ai trouvé intéressant ce que tu disais, Agnès, tout à l'heure. Effectivement, qu'on s'adresse aux gens en disant bonjour, en connaissant le prénom de la personne. C'est élémentaire, mais voilà. Donc, c'est vraiment accueillir l'autre. et lui proposer du bénévolat, lui proposer des cours de français, lui proposer de découvrir l'informatique. On a même une unité de formation sur le... J'y arriverai jamais. Comment ça s'appelle? Les téléphones portables.
Les smartphones,
voilà,
c'est ça.
Voilà, on a même une unité de formation sur les smartphones.
Bah oui, c'est important. Ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui.
Oui, et puis on sait que les accueillants, bah, souvent, oui, c'est leur bien le plus précieux, oui, le téléphone. Oui, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils savent se servir.
Oui, 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 tout à fait.
Voilà, surtout
tout
quand fait. Ils ont besoin d'être en lien avec des institutions, des administrations.
Alors, la PARDAP, vous avez besoin de quoi aujourd'hui?
De quoi? Mais de quoi? Bénévoles.
De bénévoles. Voilà, donc,
de bénévoles, de soutien financier, mais comme toutes les associations. Alors, les bénévoles, soit pour participer aux actions, différentes actions, formation, accueil, et tout ça. On a une salariée qui est une secrétaire. Et
d'accord.
Puis, on a des services civiques qui animent ce lieu-là de la maison des accueillis à Babel-Saint-Bruno. Et puis, je ne vais pas faire une révélation, on a aussi besoin de sous.
Bah oui, bah oui. Des fois, quand même, je pense que les assos, ils en ont besoin aussi. Parce que,
ben
voilà.
Oui, parce que par exemple, quand on soutient les gens pour leur dossier à la préfecture, on ne paye pas l'entièreté du dossier. On paye une partie du dossier, c'est-à-dire que l'accueilli doit apporter le dossier. Mais un titre de séjour, ça peut coûter 700 €.
Ouais.
Entre les papiers, avoir le passeport, faire
les rendez-vous
photos,
à Paris,
les rendez-vous à Lyon, à Paris, tous les documents, parce que... Et le titre de séjour, ça coûte. Moi, au début, j'ai dit, bah, ah bon,
ça coûte. Ça, c'est payant.
Je veux dire, j'ai aidé... Ça dépend lesquels. Il y en a, c'est 500 €. Il y en a, c'est 500 € pour avoir un titre de séjour pour un an. Et au bout d'un an, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences.
Tu veux trouver d'autres 500 €, quoi.
Ah,
en tout cas, c'est un peu bizarre. Moi, je ne pensais pas qu'en France, on peut acheter des titres de séjour. Hein.
Tu peux l'acheter, mais tu ne vas pas chez le marchand. Il faut faire le dossier.
Après, non, mais je suis d'accord.
Si on te dit, oui, ok, on vous donne un titre de séjour. Alors maintenant, c'est des petites cartes au
format numérique, numérisé.
Carte bleue. Hein, ok, mais... Vous
payez quoi? Ouais, peut-être pour fabriquer la carte, mais 700 €, 600 € quand même, c'est la moitié de mon salaire, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Martine. Hein. Sincèrement, ça nous fait plaisir à toutes et tous, hein, de partager ce plateau ensemble. Et puis, la PARDAP, hein, le message est très bien passé. Si vous êtes animé par des bénévolats, n'hésitez pas à aller taper devant la porte où vous, voilà. Et du parrainage, surtout, ils en ont beaucoup, beaucoup besoin. Et puis on va passer à Agnès, hein, de Coup de pouce étudiant. Agnès, alors, et vous aussi aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque concrètement, quoi?
Alors, bah, je dirais comme toutes les associations, on est toujours en train de courir après l'argent, parce qu'on a peu de subventions. C'est les cotisations des bénévoles qu'on paye pour être dans l'association et des étudiants. On organise tous les 2 ans un concert.
Bon, d'accord.
Donc là, on a renfloué les caisses cette année, là, au printemps. Et on a besoin aussi toujours de bénévoles. Alors, il y a pour donner
des cours,
mais aussi pour faire de l'accueil, par exemple. Parce que les gens peuvent se dire, bon, moi, je ne me sens pas de donner des cours de français à un étudiant, mais il y a aussi des tâches d'accueil, il y a toujours besoin. Et puis, comme on fonctionne par binôme, il faut beaucoup de monde pour trouver
le
bon binôme.
Voilà. Donc, les amis, n'hésitez pas, c'est pour une bonne cause. Et puis, Nicodème, aujourd'hui.
Comment on fait pour vivre?
Ouais, comment vous faites pour vivre et qu'est-ce que vous avez besoin aussi?
Ben, on a des adhésions aussi, des dons, plus ou moins suivant les années. On a les fonds propres, c'est-à-dire la vente des consommations. Voilà, ce qui ne représente pas beaucoup, mais qui permet quand même d'équilibrer aussi. Mais on est aussi aidé par le conseil départemental. Par l'État via la DETS, la Direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités. Et nouvellement, depuis l'année dernière, par la métro.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Et c'est important. Et on sait que finalement, ça valide aussi notre projet, nos réalisations, de voir que l'aide au moyen de subventions est relativement pérenne de la part de ces 3 institutions.
D'accord. Ok,
voilà.
Merci beaucoup Nicodème. Claire, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
À rajouter, c'est qu'il n'y a, nous, pas de salariés.
Aucun, oui.
Aucun, et la force, c'est les bénévoles.
D'accord. Ouais. En tout cas, moi, je vous ai dit, j'ai dit tout à l'heure dans la discussion, je passe souvent devant la porte
aussi,
de Nicodème.
On accueille des
bénévoles. Je vois tout le temps, il y a du monde là-dedans, quoi.
On a des migrants, des jeunes qui arrivent d'Afrique, mais aussi des gens qui arrivent d'Albanie, qui arrivent de d'autres pays, mais on a des migrants
qui viennent d'un peu partout.
Des moins jeunes, on a actuellement dans les migrants, on a 3 ou 4 mères de famille qui ont 2 voire 3 enfants et qui sont en attente de papiers, qui sont bénévoles chez nous.
C'est pas facile quand même cette attente de papiers.
Et on a remarqué que c'est extrêmement important parce que c'est des bénévoles qui restent longtemps. Donc au niveau des gestes professionnels qu'on fait, on peut dire qu'on s'apparente à ce qu'on appelait autrefois les postes d'agent polyvalent de restauration. Mmh. Voilà. Mais surtout, c'est des liens qui se créent entre les bénévoles et les bénévoles français, on va dire, et les jeunes qui sont migrants. Ouais. Il y a des liens qui se créent de type lien de famille, l'anniversaire est fêté, ils se retrouvent en dehors. Il y a de l'aide pour les papiers, il y a de l'aide pour la scolarité de leurs enfants. C'est ce que tu vis, toi, avec Elouna, par exemple. Voilà.
Qui est devenue une copine, une amie. Bah ouais.
Relation
d'amitié classique.
Yes, ça crée du lien, tout ça, quoi. Donc, en tout cas, voilà, moi, j'ai dit bravo à toutes les associations de la région pour tout ce que vous faites, quoi. Sincèrement, heureusement que vous êtes là. Donc, voilà, les amis, vous qui nous écoutez également, hein, je l'ai dit tout de suite et tout à l'heure, je répète encore, voilà, si vous avez envie de faire du bénévolat, hein, d'une donner du temps libre à des gens qui sont vraiment dans le besoin, hein, n'hésitez pas. Il y a la Pardap, il y a Coup de pouce étudiant, il y a Nicodème. Hein, il suffit de taper tout ça sur Internet. Vous allez trouver.
Ce que j'allais dire, oui, le site de la Pardap est assez complet. Voilà. Donc il est facile à consulter. Donc à pardap.org, je crois.
Voilà. Merci beaucoup, les amis. À la prochaine fois.
Merci.
Ciao, ciao. Bye. Alors, moi, je vois des assiettes qui passent là, par les fenêtres là, et tout ça. J'ai envie de manger.
On va y aller,
c'est parti, les amis. En tout cas, voilà, comme on le rappelle, hein, c'est dans le cadre de cette journée internationale du bénévolat. Donc, nous sommes là en direct à Babel. Hein.
C'est ça, ouais.
Babel, comment ça s'appelle? C'est quoi la suite? Babel, quoi? C'est juste Babel. Hein.
Babel.
Voilà, voilà. Donc, voilà, à 13 Henri Le Châtelier, c'est 13 ou 3. 13, hein. Voilà. Donc, restez connectés sur les ondes. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas si on va avoir une autre interview parce que moi j'ai faim, il faut que je mange. Donc si vous aussi vous êtes en train de manger, bon appétit. La musique arrive avec Manel, son titre Freedom. Voilà, ça c'est pour vous, ça les amis, à consommer sans modération. C'est parti.